Donc typiquement, ce capitalisme de surveillance, en quoi est-ce qu'il, pour moi, fragilise, à la fois accélère, mais fragilise les systèmes? Donc j'ai pris deux, trois exemples. Typiquement, les algos de recommandation de YouTube. Vous allez me dire, quelle relation avec avec l'effondrement? Bah, les algos de recommandation de YouTube étant YouTube appartenant à Google, Google appartenant à Alphabet, YouTube, à un moment donné, doit satisfaire les actionnaires de Google. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils vendent de la publicité, il faut qu'ils fassent rentrer du cash, tout simplement. Et pour faire rentrer ce cash, ben, il faut mettre de la pub. Pour mettre de la pub, il faut que les gens la regardent. Pour que les gens la regardent, il faut qu'ils aient des contenus qui fassent qu'ils vont regarder cette vidéo. Et c'est pour ça, entre autres, donc moi j'avais déjà discuté avec un Guillaume Chalot, qui est un ancien développeur et un ancien, développeur chez YouTube, qui a travaillé sur l'algorithme de recommandation et qui aujourd'hui dénonce son propre travail entre guillemets, sur lequel l'algo de YouTube va nécessairement vous envoyer vers des vidéos qui vont être celles qui vont vous faire rester. Alors au début, ça peut être des vidéos de chatons, c'est sympathique, mais assez vite, vous tombez sur une vidéo de Soral, et c'est fait pour ça. Ça ne veut pas dire que, soyons très clairs, je ne pense pas que Google ait conçu son algorithme pour vous dire « on va renvoyer vers des vidéos d'extrême droite ». Par contre, ils ont constaté, encore une fois, par cette boucle de rétroaction, que si on montrait des vidéos courtes, typiquement extrémistes, bah les gens restaient et regardaient et se disaient « oh là là, c'est pas possible ». Et du coup, on pouvait caler de la pub entre-temps et ça permettait à YouTube de gagner de l'argent, à Google de gagner de l'argent, à Alphabet de gagner de l'argent et donc aux actionnaires d'Alphabet de gagner de l'argent. Donc, c'est pas une volonté de nuire, soyons très clairs. Moi, je suis persuadé que Mark Zuckerberg se frotte pas les mains tous les soirs en se disant « Houhouhou, qu'est-ce qu'on va faire demain, Cortex, pour dominer le monde ?» Mais à un moment donné, ouais, peut-être qu'il le fait. Bah, déjà, il l'a pas encore annoncé, mais à mon avis, il va quand même avoir l'outrecuidance de se présenter en tant que potentiel candidat à l'élection présidentielle américaine. Enfin, je serais pas très étonné qu'il le fasse. Il y a en tout cas des signaux faibles aujourd'hui, mais des signaux sensibles qui laissent à penser que Mark Zuckerberg pourrait se présenter aux prochaines élections, enfin en tant que candidat aux prochaines élections américaines. Mais donc je pense pas qu'ils le fassent avec une intention réelle de nuire. C'est juste qu'ils sont dans leur système de pensée, dans leur système économique, et que ça leur pose pas forcément problème de fonctionner comme ça. Deuxième exemple, sur le fait que le capitalisme de surveillance, puisqu'il doit générer au travers des outils numériques une certaine attractivité et encore une fois rapporter de l'argent, par son design même, propose des outils qui sont là et qui vont contraindre votre pensée. Typiquement, Alexandre en parlait aussi tout à l'heure, Twitter en 240 caractères, on est quand même aujourd'hui sur une pensée qui est forcément contrainte. Comment est-ce que vous voulez avoir un dialogue apaisé? Comment est-ce que vous voulez ne pas générer de la haine et on va dire des contenus, on va dire, qui sont basés sur l'émotion plutôt que sur la raison, parce que ce qui pourrait nous sauver, c'est d'être raisonnable, mais on n'est pas raisonnable. On est dans l'émotion et typiquement, voilà, vous avez quand même le type de pays le plus puissant au monde qui vient gueuler sur le président iranien en lettres capitales, ce qui pour nous geeks est un on a les yeux qui saignent. Et voilà, et qui dit ouais machin, voilà, président Rouhani, ne menacez jamais les États-Unis encore, blablabla, etc. Sur Twitter. Et donc cet outil contraint la pensée et pour moi peut accélérer l'effondrement. Donc tout à l'heure quand je parlais des crises politiques et économiques, ce type de tweet ne renforce pas une certaine résilience d'un point de vue géopolitique. Enfin, je serais le président iranien, je verrais ça, j'aurais juste envie d'appuyer sur le bouton, etc. Et donc, on est dans cette problématique-là. Dernier point sur le capitalisme de surveillance et ce qu'il génère. Donc là, vous avez, il y a maintenant quelques jours, Google a officialisé son nouveau produit qui permet de faire de fonctionner une intelligence artificielle pour aider les ophtalmos, enfin pour faire un diagnostic ophtalmologique. Mais j'ai pas pris cet exemple-là. J'ai pris l'exemple qui dit que, aujourd'hui, je vais vous lire le passage, alors que les médecins humains ne dépassent pas les 62% de précision en général, donc sur l'analyse d'une radio ou d'un IRM concernant un cancer du sein, Voilà. Alors que les médecins humains ne dépassent pas les 62% de précision en général, l'intelligence artificielle de Google parvient à détecter la présence d'un cancer du sein au stade avancé dans 99% des cas à partir de scanners très différents. Et donc, peu importe les scanners très différents. Mais ce que ça veut dire, c'est que concrètement, aujourd'hui, Google est capable d'être plus, enfin, l'intelligence artificielle de Google est capable d'être plus performante que certains médecins. Et donc là, il faut faire un tout petit peu de prospective et se dire, bon, ok, si l'intelligence artificielle de Google est meilleure, si, je sais pas, moi, ma copine va demain se faire détecter pour un cancer du sein, on aura tendance à faire plus confiance à l'intelligence artificielle de Google qu'à un médecin. Ce qui est tout à fait naturel. Quand on y réfléchit, tant qu'à faire, autant avoir un diagnostic qui est aussi sûr que possible. Ce que ça me pose comme problème, c'est qu'encore une fois, on va tendre le système parce que, concrètement, bah, les médecins, on ne va plus leur apprendre à lire correctement une IRM ou une radio. Pourquoi le faire alors que l'intelligence artificielle est plus performante ? Et donc, on risque de se retrouver dans un monde, mais à très très court terme, hein, là je parle de 3 ans, 5 ans, j'en sais rien, mais en tout cas vraiment très très court terme, où on ne ferait plus travailler les médecins sur la capacité de détection d'un cancer du sein, d'un problème à la rétine ou d'un diagnostic, quel qu'il soit. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Ben, tout simplement, les médecins n'apprendront plus lors de leurs études à faire des diagnostics et on va devenir complètement dépendant de Google. Donc, aujourd'hui, dans une logique capitaliste, pour Google, c'est pas trop compliqué. Il vendra cette prestation, cher, pas cher, etc. Ce sera selon ses souhaits. Mais ça va poser un problème en cas d'effondrement. Si, comme moi ou comme J, vous pensez que tôt ou tard, il y a quand même de très très fortes chances d'avoir cet effondrement, qu'est-ce qu'on fera si jamais on n'a plus accès à ces diagnostics ? Il n'y aura plus un médecin qui sera en capacité de diagnostiquer correctement des cancers sur des technologies qu'on maîtrise pourtant aujourd'hui. Et on fait quoi, nous, libristes ?